Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, merci de votre fidélité au Capi Service et merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Vous écoutez en ce moment le magazine au Capi Service, l'émission de la vie au quotidien. Et nous allons parler de la formation des autistes et aveugles. Vous savez, la formation au niveau supérieur des personnes vivant avec handicap auditif et visuel n'est pas assez développée dans notre pays. Ces personnes n'ont pas assez d'opportunités pour faire des études dans les instituts supérieurs et universitaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir l'accès aux études supérieures à ces personnes, à cette catégorie des personnes? Eh bien, on en parle avec Jean Moupépé, directeur général de l'Institut supérieur Banaté. Jean, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bien, c'est Jody qui est à l'antenne aujourd'hui.
Jean... Ah, Jody.
Voilà, dites-nous Jean, pourquoi les personnes vivant avec handicap auditif et visuel n'ont pas assez d'opportunités de poursuivre leurs études au niveau supérieur?
Bon, il se passe une situation dans nos instituts supérieurs et universités. Je crois que le cadre n'est pas préparé pour recevoir ces personnes parce que parfois leur formation demande et présente beaucoup de complexités. Et si par exemple à l'Institut supérieur normal Banaté, nous faisons un gros effort par exemple pour interroger les aveugles ou les sourds-muets. Pour les sourds-muets, il y a toujours un spécialiste de leur domaine qui... parmi les enseignants qui les évaluent. Pour les aveugles, nous...
Oh là là, désolé, Jean Moupépé n'est plus en ligne. On va tenter de le rejoindre de nouveau. Il est directeur général de l'Institut supérieur Banaté. Avec lui, nous parlons de la promotion des études supérieures, des personnes qui vivent avec, qui ont des handicaps auditifs et visuels. Alors, vous avez des questions et préoccupations ou des témoignages par rapport à ces thèmes, appelez au 081-890-63-79, 081-890-63-79, écrivez-nous à service@radio-okapi.net et faites-nous parvenir vos SMS au 081-711-50-01. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Écho d'économie. Sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, comment promouvoir les études supérieures des personnes vivant avec handicap auditif et visuel? Jean Moupépé, vous êtes de nouveau en ligne. Vous étiez
oui, je suis de nouveau en ligne.
Voilà, vous étiez en train de nous donner les raisons qui font que ces personnes n'ont pas d'opportunité de faire des études au niveau supérieur. Pouvez-vous nous rappeler ces raisons?
Oui, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes dans notre système d'enseignement supérieur pour s'occuper de ce genre de personnes, pour pouvoir les évaluer, pour pouvoir communiquer avec elles. C'est ça qui complique un tout petit peu. C'est ainsi que, par exemple, dans le cadre de l'Institut supérieur normal Banaté, nous avons adopté le système d'engager les quelques spécialistes que nous avons sur le terrain qui dirigent les écoles pour sourds-muets ou pour aveugles, qui viennent dispenser les cours comme le langage de sourds, le braille, et donc quand nous enseignons, ces personnes qui ont des beaucoup de disponibilités, beaucoup de dispositions pour apprendre, comprennent parfois plus rapidement que ceux dits normaux. Alors quand il faut les évaluer, nous faisons un effort pour faire transcrire les examens en braille. Nous les donnons en langage normal et quelqu'un les transcrit en braille, les étudiants passent l'examen, après on refait le transcodage et on cote. Ceci n'est pas prévu dans le système éducatif de l'enseignement supérieur dans notre pays. C'est pourquoi peut-être on refuse d'accepter ce genre de cette catégorie de personnes. Dernièrement, on m'a signalé par exemple qu'il y en a un qui a fait le droit, mais on refuse qu'il fasse la soutenance. C'est un aveugle. C'est une personne qui est intelligente, qui présente des dispositions pour pouvoir se défendre correctement, mais malheureusement...
On refuse la soutenance.
Oui.
Et pourquoi on refuse qu'elle fasse la soutenance?
Je ne sais pas encore quelles sont les raisons. Peut-être quand d'autres spécialistes peuvent intervenir dans l'émission, ils vous donneront quelques raisons qui ont été avancées.
Voilà. Alors, comme notre système d'enseignement n'a pas prévu de prendre en charge ces personnes, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il créer des institutions uniquement pour cette catégorie de personnes?
Mais puisque ce sont des personnes, Marcel, si tu prends par exemple sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, au niveau du bâtiment de la poste, tous les mendiants qui passent là, aveugles, accompagnés d'un élève d'âge scolaire qui est en chômage, c'est une charge pour le pays. Au lieu d'un seul aveugle, vous immobilisez deux personnes. Et celui qui accompagne l'aveugle et celui qui mendie. Donc, le pays perd. Nous avons intérêt à faire former ces gens, à créer des structures qui peuvent les encadrer. J'ai effectué par exemple un voyage au Kenya. Je suis allé faire une observation à l'université Kenyatta. Ce que j'ai observé là-bas, c'est extraordinaire. Le Kenya a compris et a dans son université tout un département de l'enseignement spécial qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Notre pays aurait intérêt à suivre cet exemple.
Mmh. Et alors, parlez-nous un peu en long et en large, comment ça se passe là-bas au Kenya?
Au Kenya, donc, dans leur université, ils ont ce qu'ils appellent School of Education. Chez nous, on parlera de faculté de l'éducation et de l'enseignement. Alors, dans ce département, vous avez une catégorie des personnes vivant avec handicap qu'ils prennent en charge pour la formation. Je peux citer, par exemple, des cas d'handicap qui ne sont pas pris en compte chez nous, dans notre pays. Vous avez l'autisme. Vous avez les débiles, vous avez ceux qui souffrent de troubles de comportement, vous avez ceux qui ont des problèmes de boulimie, anorexie, tic, de bégaiement, les nuresies. Donc ce sont des cas d'handicap que nous ne prenons pas en compte dans notre pays, mais que les Kenyans valorisent. Et c'est parti de leur loi. Ils ont fait élaborer une loi qui prend en compte cette catégorie de personnes et qui les protège et qui s'occupe de les faire former. Parce que ce sont des citoyens à part entière. Chez eux-mêmes, au Kenya, par exemple, on ne parle pas des personnes vivant avec handicap. Ils parlent des difficultés. Ils disent « person challenge ». Ça signifie qu'ils ont banni de leur vocabulaire le mot « handicapé » et « handicap » pour valoriser ces personnes. Et donc, ils les intègrent dans le système d'enseignement. Alors, le grand problème qu'ils ont maintenant, c'est probablement penser à les faire former dans d'autres filières, au lieu de ne se cantonner qu'à l'enseignement, comme c'est le cas chez nous aussi, à l'Institut supérieur normal d'Anafé. Nous formons des personnes vivant avec handicap, mais pour l'enseignement. Nous avons, par exemple, deux candidats très brillants, deux aveugles. L'année passée, il y en a un sourd-muet qui a terminé avec distinction. Donc, nous pensons que nous devons penser à ces gens, les prendre en charge et les faire former dans des institutions d'enseignement supérieur. À défaut, dans l'Institut supérieur normal d'Anafé, nous sommes en train de penser à ajouter ou à demander au ministère pour faire ouvrir d'autres filières pour la spécialisation ou la formation spécialisée de ces personnes.
Alors, vous avez dit au Kenya, par exemple, si l'université prend en charge ces gens, cette catégorie de personnes, c'est parce que déjà, il y a eu un cadre légal qui le permet. Donc, est-ce que chez nous, la loi, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui prévoient cela?
À ce que je sache, non. Je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par la personne vivant avec handicap devraient faire un plaidoyer auprès du Parlement, auprès du gouvernement, pour qu'une telle loi voie le jour dans notre pays. Parce que ce sont des citoyens que nous mettons de côté, alors qu'ils peuvent aussi apporter leur contribution. Les aveugles, par exemple, actuellement, il y a des ordinateurs parlants qui permettent aux aveugles de faire des travaux de saisie, de travailler dans une bureautique. Donc, le monde est en train de tendre vers une spécialisation et la science permet beaucoup de prouesses que nous ne pouvions pas faire dans les siècles passés. Mmh. Nous devons en profiter.
Voilà. Alors, cela va impliquer, il faut qu'il y ait une loi à ce sujet, mais il faut également que les enseignants soient formés à des techniques, qu'ils soient bien formés pour arriver à prendre en charge cette catégorie des personnes.
Bien sûr.
Par rapport à leur formation.
Tout à fait par hasard, oui, tout à fait par hasard, j'ai rencontré, dans le cadre des évaluations nationales, un inspecteur général qui a fait une thèse de doctorat en enseignement spécial. Mais si on cherche, on peut trouver des médecins, des psychologues qui peuvent se disponibiliser pour ce type de formation. Il y en a un qui suit les sourds-muets ici à Québec, c'est un médecin. Je ne sais pas s'il est intégré dans l'enseignement supérieur, mais s'il est intégré dans l'enseignement supérieur, c'est dans quelle université? Est-ce que cette université peut permettre d'admettre, de donner l'accès aux personnes vivant avec handicap? Je vous rappelle par exemple que lors de la collation des grades académiques à l'Institut supérieur normal d'Anaté, le procureur de la République, après le tribunal de grande instance du circuit, était parmi ceux qui assistaient à la proclamation. L'étudiant sourd-muet, donc disons malentendant, qui a pris la parole, a posé la question au procureur. Madame la procureure, si il vous arrivait de juger ou bien on vous amène un sourd-muet pour un délit quelconque, vous n'avez pas dans votre cabinet un spécialiste de ce domaine, comment ferez-vous pour le faire, pour l'entendre? Eh bien, il vient de se passer à Québec un cas, on a arrêté 3 jeunes gens, des sourds-muets, qui opéraient la nuit, qui ont cambriolé une maison. Et comment on doit les juger à ce moment-là si on n'a pas pensé à faire former des magistrats de ce domaine, de cette catégorie?
Voilà, ça c'est un cas qui est arrivé, c'est une réalité. Donc vous pensez à former les enseignants qui vont prendre en charge toutes ces personnes. Donc toutes les fonctions de la loi, Jean Moupépé.
Oui, bon, il y a quand même des ouvertures. L'institut dont je suis le directeur général et le promoteur a été agréé par l'État. C'est l'unique pour le moment dans tout le pays et même dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous avons des options. Vous avez l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, mais la branche qui nous intéresse ici au cours de cette émission, c'est l'enseignement pour personnes vivant avec handicap. Nous formons les enseignants qui doivent s'occuper des enfants vivant avec handicap auditif, visuel, en maternelle, au primaire et au secondaire. Déjà, c'est une ouverture puisque le programme a été agréé par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, on ne forcera pas la note si on arrive à obtenir qu'une loi spéciale soit votée pour cette personne, pour cette catégorie.
Voilà, mais déjà au niveau du ministère, on accepte l'organisation de ce genre d'enseignement.
Oui, mais puisque l'Institut supérieur normal dont je suis le directeur général a été agréé par ordonnance ministérielle numéro 092, Minessius, par Carmine, par DCL, par CD, par TBN en 2013, le 6 septembre exactement.
Alors, quelles sont les conditions pour organiser ces types d'enseignement? Parce que ça relève d'un enseignement spécialisé.
Soumettre le programme au ministère et le défendre. Et quand vous remplissez les conditions pour la viabilité de l'institution, le ministère agrée et il ne vous reste qu'à ouvrir les portes pour les inscriptions. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas encore l'importance de ce type d'enseignement. Il y en a qui préfèrent aller dans les filières traditionnelles comme les ISP et les universités, où malheureusement, cette catégorie de personnes n'est pas prise en compte.
Bien, comment promouvoir les études supérieures des personnes vivant avec handicap auditif et visuel? On en parle avec Jean Moupépé, directeur général de l'Institut supérieur Banaté. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 79. 081 890 63 79. Nous avons en ligne le révérend père Bienvenu Kanzem des Kikwit. Révérend père, bonjour. Révérend père, Bienvenu Kanzem, bonjour. Madame, il n'est plus en ligne. Il y a peut-être sûrement des petits soucis au niveau de la liaison téléphonique. Et il va nous rejoindre encore tout à l'heure. Alors Jean, Moupépé, vous étiez en train de parler des conditions pour organiser ces types d'enseignement. Vous avez dit qu'il faut un programme. Alors, par exemple, pour les cas de l'Institut supérieur Banaté, comment est-ce que vous organisez ce programme d'enseignement?
Oui, l'institution organise une formation avec 3 orientations pour les handicapés moteurs, mais là nous n'avons pas encore des candidats. Pour les handicapés visuels, là nous avons des candidats, les handicapés auditifs, nous avons aussi des candidats. Normalement nous devions aller jusqu'aux personnes vivant avec handicap mentaux, les retardés mentaux légers, comme le ministère l'a autorisé. Alors nous organisons l'enseignement dans le cadre de l'enseignement inclusif, et les aveugles, et les sourds-muets, et les personnes dites normales suivre les cours dans la même salle dispensée par le même professeur. Et donc, ces professeurs sont invités à rendre leurs cours compréhensibles à toutes ces, toutes les catégories d'étudiants que nous avons. Moi-même, je viens d'achever, de terminer un cours. J'ai donné le cours d'expression orale et écrite. Mmh. Et je m'y suis pris comme les exigences de l'Institut le veulent pour être suivi et compris par les étudiants sourds, muets et aveugles.
Et comment vous faites, quelle est la technique utilisée pour vous faire comprendre auprès de ces personnes?
Pour les personnes vivant avec handicap positif, nous recourons à la langue des signes. Parce que vous voyez parfois, quand il y a au journal télévisé, et même une fois, vous pouvez voir dans certaines conférences internationales, vous verrez quelqu'un qui est assis et qui a le dos tourné vers la tribune et qui fait des gestes. Il s'exprime pour être compris par les sourds-muets qui font partie de l'assistance. Pour les aveugles, il y a plusieurs techniques. Souvent, les supports, nous les faisons transcrire déjà en braille. Et quand nous enseignons, les étudiants suivent à partir de leur support appelé sur le syllabus, saisi en braille. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de gymnastique et je comprends pourquoi beaucoup d'institutions n'aiment pas s'ouvrir à ces catégories de personnes.
Mmh. Nous avons en ligne le révérend père Bienvenu Kanzem de Kikwit. Révérend père, bonjour. Révérend père Kanzem, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour.
Bien, nous parlons de la promotion des études supérieures des personnes vivant avec handicap auditif et visuel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Bon, à ce sujet, je pense que la personne vivant avec handicap semble un peu être rejetée de la société, et étant donné que ce qui devait être fait, c'est-à-dire, nous les encadrons au niveau secondaire, mais quand ils finissent, ils vont où après? Même pour l'insérer dans la société, c'est tout un problème. C'est pas si l'État organisateur pourrait penser à ce que ces gens-là passent aussi l'université comme tous les autres, afin qu'ils soient utiles dans leur société. Parce que, enfin, notre objectif, c'est pour qu'ils se prennent en charge. Et comment ils peuvent se prendre en charge si quelque part ils ne sont pas considérés? Par exemple, j'ai 2-3 qui me demandent les études supérieures. Où est-ce qu'il faut les envoyer? Je suis moi-même à l'ISP ici, j'ai parlé avec les autorités. Peut-être ils les promettent pour les années à venir. Vous voyez, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors qu'ils ont droit à l'éducation comme tous les autres, comme tout le monde. C'est une personne humaine, bon, n'allez pas lui être arrivé indépendamment de sa volonté. Il faut qu'il soit formé même au niveau supérieur. Donc, sur ce point-là, l'État organisateur pourrait revoir un peu sa façon de faire pour que ces gens-là soient aussi insérés dans l'enseignement supérieur. Voilà un peu le point de vue que je pouvais mettre par rapport à ce point.
Bien, merci Révérend Père, bienvenue, 15e, dès qu'il quitte. Nous avons également en ligne Maître Kossa, il nous appelle Kaoussa, qui nous appelle des Kindou. Bonjour. Maître Kaoussa. Il est parti, quelques soucis, au niveau de la liaison téléphonique, mais il va sûrement, on va sûrement le rappeler, pour poser sa question. Alors, Jean Moupépé, vous avez suivi, le révérend père, ces sujets. Qu'est-ce que vous pouvez, dire par rapport à sa réaction?
Oui, sa réaction est tout à fait normale. Je connais bien le révérend frère Bienvenu. Le sourd muet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui venait de finir son gradué avec distinction et enseignant dans une école, qui est voisine d'ailleurs à notre institut supérieur normal Banaté. Le frère dit en toute connaissance, parce que c'est un spécialiste de l'enseignement pour personnes vivant avec handicap comme sourd-muet, il a fait cette spécialisation, il dirige maintenant l'école des sourds. Il se trouve devant une difficulté. Ces élèves qui terminent le secondaire, qui ont fait le primaire, qui terminent le secondaire, qui veulent aller au supérieur, souvent ne sont pas acceptés, ne sont pas acceptés tout simplement. Alors pour le frère, un religieux, c'est une préoccupation de voir qu'on a encadré ces personnes pour qu'elles soient utiles à la société et pour qu'elles se prennent en charge éventuellement. Mmh. Mais on les retrouve bloquées tout simplement parce qu'il y a une sorte de discrimination. Donc, je n'ai pas tout à fait raison.
Voilà, il a tout à fait raison. Alors Jean, donc pour promouvoir les études des personnes vivant avec un handicap auditif et visuel au niveau supérieur, vous avez dit la première chose, il faut qu'il y ait un cadre légal, qu'il faut qu'il y ait une loi qui organise cela. Et à part la loi, quelles sont les autres choses à faire pour que ces types d'enseignement soient pris en compte au niveau supérieur?
Bon, c'est un type d'enseignement qui, en principe, demande beaucoup de moyens parce que les étudiants n'ont pas de possibilités. Généralement, on recourt à des organismes pour pouvoir les prendre en charge. Mais avec la crise actuelle, je crois que ça devient de plus en plus compliqué. Le frère serait peut-être mieux placé pour vous dire que même les enseignants qu'il a chez lui ne sont pas payés par l'État parfois. Et en ce moment-là, c'est une charge que les gens évitent à prendre. Il faut peut-être que la loi puisse ouvrir aussi la possibilité pour des institutions de ces personnes d'accéder à certains types de financement pour aider ces étudiants. C'est une catégorie importante de la société parce que actuellement, dans le monde, nous comptons 10 à 15% des personnes vivant avec handicap. Et au Congo, c'est 20 et 25% des personnes vivant avec handicap. C'est vraiment une proportion importante des citoyens que nous laissons à l'abandon. Il faudrait que la loi puisse permettre de les occuper, mais que aussi les organismes qui sont prêts à aider puissent aider les institutions qui existent. Au niveau du secondaire, vous avez tous les villages Bondeko qui abattent un travail extraordinaire à Kinshasa. Au niveau supérieur, pour le moment, nous n'avons que l'Institut supérieur normal Banaté pour tout le Congo et pour l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, nous n'avons pas de partenaires qui peuvent soutenir nos efforts pour tout ce que nous faisons.
Alors, au niveau de votre établissement, vous avez combien de personnes vivant avec handicap qui étudient au niveau supérieur?
Bon, cette année, nous avons deux aveugles en deuxième graduat. Parfois, eux-mêmes aussi répugnent à venir faire cet enseignement. C'est assurer cette filière parce que ça les dirige vers l'enseignement. D'où la difficulté pour nous de pouvoir recevoir beaucoup de personnes vivant avec handicap. Il y a aussi le fait que les frères qui forment ces enfants au niveau maternel et primaire et même secondaire trouvent les moyens de faire payer leurs études ou de payer leurs études. Pour les sourds muets que nous avions, c'est la Fondation Banaté qui a pris en charge sa formation. Et pour les deux aveugles, c'est une institution de charité qui a payé les frais. Donc pour le moment, nous avons deux aveugles qui sont en deuxième graduat. Ils sont nombreux qui voudraient bien venir, mais la grande difficulté, c'est la prise en charge financière pour leurs études.
Alors au niveau du Kenya, où vous étiez à l'université du Kenya, où vous avez visité comment ça fonctionne là-bas. Alors comment ils font pour financer leurs études de l'autre côté?
La loi chez eux a permis qu'ils cherchent des partenaires et cette formation est prise en charge par les partenaires qui envoient des fonds à l'université du Kenya. Et c'est impeccable ce qui s'est fait là-bas et extraordinaire parce qu'ils ont réussi une expérience très très bien menée depuis bientôt 10 ans. Et ils ont dit qu'ils ont beaucoup d'organismes qui participent à financer les études de ces personnes.
Maître Kaoussa nous appelle de Kindu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation n'est autre que de vous signaler qu'au niveau de Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema, il y a un complexe scolaire de sourds-muets. Faradja de sourds-muets.
Oui.
Il s'occupe également de ces malentendants-là, de sourds-muets. Et au cours de cette année scolaire, il y a au moins 10 élèves qui vont présenter leurs examens d'État, et espérons qu'ils feront mieux, parce que depuis qu'ils ont fait le certificat de l'école primaire, ils ont toujours été meilleurs. Et même l'année académique qui vient de s'écouler, il y a eu un malentendant qui est sorti gradué à l'ISC ici, à Kindu. C'est juste demander à ce que le gouvernement puisse intervenir, aider des pareils complexes scolaires tels que celui de Faradja de Kindu à aller de l'avant.
Voilà, mais est-ce qu'au niveau, au niveau, Au niveau des établissements supérieurs de Kindu, y a-t-il de plus en plus beaucoup de malentendants et des malvoyants qui font des études au niveau du graduat ou de la licence?
Jusque-là, c'est le premier malentendant qui a fait son titre de graduat. Et il a été accompagné par un interprète, son ami aussi élève, qui l'a accompagné comme étudiant et ils ont terminé ensemble. C'est jusque-là le premier graduat que nous avons connu au niveau des Kindu.
D'accord. Merci, Maître Kaoussa. Oui.
Mais nous avons un spécialiste, un chef de travaux, Ngongo Christmas, qui s'en occupe, mais il n'est pas assisté. C'est un chef de travaux. C'est le promoteur de ce complexe scolaire, le Faraja de Sou.
D'accord. Merci. Jean Moufépé, vous avez suivi le témoignage de Maître Kaoussa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ça me réjouit beaucoup parce qu'au niveau primaire, il y a de plus en plus d'écoles pour sourds-muets, pour aveugles. Et si je vois bien ici dans le diocèse de Kikwit, l'initiative est partie de l'évêque Nuno, parce qu'il n'y avait qu'une seule école pour sourds-muets à peine vers la ville de Bandounous. Elle a fermé, si ma mémoire est bonne. Maintenant, nous avons ici à Kikwit deux instituts. Deux institutions d'enseignement secondaire, Botatouba, donc pour les sourds-muets, Botamona, ils verront, ils parleront, créés à l'initiative du diocèse de Kikwit, et qui récupèrent tant bien que mal les enfants de toute l'ancienne province de Bandundu, démembrés, qui les recrutent pour les faire étudier ici à Kikwit. Alors ça pose aussi un problème de finances, parce que ces enfants qu'on déplace doivent être mis dans des familles d'accueil, où on doit les nourrir, s'occuper d'eux et s'occuper aussi des problèmes de leur santé. Ça devient compliqué quand, par exemple, les appuis extérieurs manquent. Ça devient compliqué, évidemment.
Voilà, ça devient compliqué. Donc, nous retenons pour promouvoir les études des personnes malvoyantes ou malentendantes. Il faut d'abord qu'il y ait un cadre légal et puis un régime de financement de leurs études. Il faut qu'il y ait des gens parce qu'ils souvent ils n'ont pas assez de moyens, ils ne savent pas financer leurs études au niveau supérieur. Alors, quelles sont les autres conditions, Jean Moupépé?
Les autres conditions, c'est que nous devons continuer à sensibiliser les familles. Parce que à ce niveau-là aussi, il y a des problèmes. Beaucoup de parents pensent que faire étudier ses enfants, c'est gaspiller les peu de moyens qu'ils peuvent avoir dans cette situation de crise. Et ils peuvent se dire, non, ce sont des personnes inutiles. Il faut qu'il y ait une sensibilisation pour les familles qui ont des enfants avec ce type de cas. Pour les familles qui peuvent accueillir les enfants dans les milieux où on les amène pour qu'ils puissent être formés, et pour la société, une campagne pour absolument arriver à sortir cette personne ou ces personnes de l'exclusion dont ils sont l'objet.
Bien, merci.
C'est ça qui amène vraiment la nécessité de faire un plaidoyer pour une loi protégeant les personnes vivant avec handicap comme ça se passe au Kenya.
Voilà, il faut sensibiliser les familles parce que c'est vrai, c'est que vous dites, dans une famille, les parents peuvent se dire, bon, c'est celui-là, cet enfant, on ne voit pas pourquoi l'envoyer à l'université, il préfère envoyer les autres et ne donne pas la chance d'aller à l'école. Ça, c'est un frein à leur développement.
Oui, bien sûr, c'est un frein absolument.
Bien, merci Jean Moupépé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut supérieur Banaté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà, avant d'arrêter, Tati me fait signe rapidement qu'il y a un auditeur en ligne. On va quand même l'accueillir avant de clôturer. Thierry Moupoila, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour, je suis en ligne.
Oui, quelle est votre question?
Non.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ces thèmes?
Ok, je n'ai pas bien suivi le début là. Et ça crache, hein, si vous pourriez un peu reprendre.
Oui, nous parlons de la promotion des études supérieures des personnes vivant avec handicap auditif et visuel. Alors, quel est votre sujet par rapport à ces thèmes?
Ok, les personnes vivant avec handicap visuel ont vraiment un problème sérieux pour les études supérieures. Nous avons des jeunes qui finissent le cycle secondaire, mais qui ne peuvent pas aller à l'université parce que les instituts supérieurs n'acceptent pas ces enfants. Vu le système, les moyens, ça bloque nos enfants vivant avec handicap visuel, précisément les aveugles. vraiment ces enfants sont bloqués. Il y a un qui a fait le droit, qui a fini. Il y a un autre qui est en train de continuer les études. Et d'autres encore voulaient continuer, mais ils ne sont pas acceptés. Et ça nous fait mal, moi, en tant que responsable de ces personnes vivant avec handicap, qui finissent le cycle secondaire, qui sont refusés. Et pourtant, ils ont des qualités. Ils sont intelligents, ils peuvent vraiment étudier comme les autres. C'est un silence pour les autorités. C'est ça notre inquiétude, quoi.
D'accord, merci d'avoir appelé Thierry. Jean Moupépé.
Oui, merci, le frère Thierry qui vient d'intervenir est préfet de l'école pour aveugles à Kikwit. Il est assistant, chef enseignant à l'IST Kikwit et à l'Institut supérieur normal Banaté. Et vraiment, c'est un poids pour cette personne qui se dévoue et de voir que à un moment donné, les efforts sont bloqués. Alors, le 3 décembre, c'est la journée, la commémoration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Je crois que notre radio va faire un grand effort pour nous aider à atteindre ou à toucher une grande partie de la population du pays et surtout nos députés, nos élus, pour qu'ils pensent à une loi qui prendrait en compte cette catégorie de personnes.
Bien, merci Jean Moupépé, directeur général de l'Institut supérieur Banaté. Dès que quitte, à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, merci, et je dis à la prochaine.
Ok.